billet. Et ça, vous vous souvenez encore du texte ?
La prière.
C'est la prière de l'Église, de l'Église de Jérusalem, dans Acte 4, versets 23 à 31. Et nous avons vu deux caractéristiques de cette prière. Quelqu'un s'en souvient ? Non ? Seriez-vous des auditeurs oublieux ?
Non, Jacques. C'est dans Jacques, ça, non ?
Ouais. Oui, on est tellement oublieux. Souvent même, le dimanche, à la sortie du culte, on a déjà oublié ce qui a été dit. C'est bon, ça va vite. Et on avait vu deux caractéristiques.
Ouais.
La première, c'était
ça te ferme pas.
L'importance de prier ensemble, d'un commun accord. Et nous avons vu que ce terme « ensemble » était très fort. Ça évoquait la notion de vigueur, de vitalité, de bouillonnement. Il faisait bloc. Et puis la deuxième caractéristique de cette prière, c'est qu'elle reconnaissait la souveraineté de Dieu. Alors, ce matin, je vous propose d'en voir cinq autres. Donc, si vous avez prévu un petit déjeuner, il sera à 4 heures. Alors, rassurez-vous. 20 minutes, 25 minutes. Et après, on fera des travaux pratiques. Quelques travaux pratiques. On va marcher sur les eaux comme on l'a chanté. Il ne suffit pas de le chanter, il faut aussi l'expérimenter. Hein. Marcher sur les eaux. Alors, on va relire ce texte, du livre des Actes, au chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, les apôtres Pierre et Jean allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre son saint serviteur Jésus que tu as voint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alors, la première caractéristique de la prière de cette Église, nous la trouvons au verset 24. Ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, amen. On ne va pas tout relire. On voit qu'il y a peut-être un ou plusieurs membres de l'Église qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mettent à proclamer des versets de l'Écriture, de l'Ancien Testament. Et quand on regarde bien, il s'agit du psaume 146 et du psaume 2. Et il se trouve que ces versets correspondent parfaitement à la situation vécue par l'Église. Est-ce un hasard? Certainement pas. À quoi assistons-nous dans le cas présent? À la manifestation de ce que le Nouveau Testament appelle une parole de connaissance. C'est un don qui figure dans la liste des dons spirituels de 1 Corinthiens 12. une parole de connaissance. Vous avez peut-être déjà assisté à des réunions où, brusquement, il y a quelqu'un qui déclare « Je vois une personne avec telle ou telle maladie et le Seigneur veut la guérir. » Ben ça, ce n'est pas une parole de connaissance, selon la Bible. Ça, c'est une révélation, une parole prophétique concernant la personne malade. La parole de connaissance, selon le Nouveau Testament, ce n'est pas simplement connaître dans le sens de savoir. Je prends un exemple. Le jour où vous êtes converti, vous avez personnellement reçu et connu la parole de Dieu. Elle vous a percuté, elle a pris vie en vous. Et pourtant, vous l'aviez peut-être déjà maintes et maintes fois entendue auparavant, sans que vous étiez interpellé. On peut dire que ce jour-là, vous avez connu Dieu, dans le sens connaître, le sens biblique. Vous avez connu Dieu. Un autre exemple, là, cette année, on va célébrer les 500 ans de la Réforme. Luther, il était moine, il avait lu la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau. Il avait lu dans Habacuc, le juste vivra par la foi. Il avait lu dans l'Épître aux Romains, le juste vivra par la foi. Il avait lu peut-être des dizaines de fois. Et puis un jour, il a eu cette parole de connaissance, le juste vivra par la foi. Et là, ça fait tilt, comme on dit. Et là, tout a changé. Donc une parole de connaissance, c'est la parole de Dieu révélée. Celle qui vient à propos, c'est une réponse de Dieu. Et elle donne à la parole de Dieu un sens plus profond, une révélation plus profonde, elle éclaire une situation présente, elle répond à une situation précise, et elle aide l'Église et le chrétien dans cette situation-là. Et c'est cela qui est arrivé dans cet épisode de l'Église primitive. Les disciples, ils ont su comment prier et quoi faire par la suite. Le Saint-Esprit qui est à l'origine de la parole de Dieu est aussi celui qui la rend vivante. Il en révèle les trésors cachés, et particulièrement tout ce qui nous a échappé lors d'une lecture superficielle. Et je crois que nous avons besoin de paroles de connaissance pour être dirigés dans notre vie personnelle et pour la vie de la communauté. Des paroles directrices, des paroles fortifiantes, encourageantes, stimulantes, édifiantes. Et il nous faut une parole concrète dans une situation déterminée, bien définie, précise. Mais grâce à Dieu, si nous sommes en communion avec lui, nous pouvons nous attendre à recevoir la direction du Saint-Esprit. Recevoir un verset, ce que la Bible appelle un rhéma, c'est une parole révélée, appropriée à notre situation personnelle ou d'église. Et Dieu a un plan pour chacune de nos rencontres, aussi pour celle de ce matin. Et le Saint-Esprit va nous conduire point par point. Et, gloire à Dieu, le Saint-Esprit ne rate jamais sa cible. Soyons donc à l'écoute du Saint-Esprit comme l'était l'Église primitive. Et le programme de chacune de nos réunions, nous le trouvons aussi dans la Bible. Nous ne le trouvons pas sur Internet chaque semaine. Non, nous le trouvons dans la Bible. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Ça, c'est le seul programme qui qui était donné à l'Église dans le Nouveau Testament pour le déroulement des rencontres. Point final. Ni plus, ni moins. Je crois que nos rencontres doivent évoluer dans ce sens. Pour ne pas ou ne plus reposer uniquement que sur deux ou trois personnes. Au fil des siècles, malheureusement, l'Église s'est éloignée de ce modèle. L'Église est devenue une Église d'auditeurs au lieu d'être une Église d'acteurs. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est sûr. Et pour refaire le chemin inverse, ça prendra du temps. Beaucoup de temps. Ce n'est pas en une seule réunion que ça va changer. Alors, je crois que nous devons revenir à la simplicité de la parole de Dieu. C'est rechercher l'édification mutuelle. Qu'est-il encore écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 7 ? Or, à chacun, la manifestation passagère de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. À chacun. Et Hébreux 10, 25 nous dit aussi, exhortons-nous réciproquement, pas seulement celui qui est devant, qui prêche, ou celui qui dirige les chants. Non, exhortons-nous dans les rangs, réciproquement. Je suis de plus en plus convaincu que nous devons réapprendre l'Église. Et tout ce que je lis, jour après jour, il faut que je réapprenne l'Église telle que Jésus l'a voulu. Voilà la première caractéristique, une prière qui est à l'écoute du Saint-Esprit. Et la deuxième caractéristique, c'est une prière qui s'appuie sur la parole de Dieu. Donc cela rejoint ce qui vient d'être dit, puisque c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole de Dieu. On voit là que les disciples ne paniquent pas, mais ils confessent simplement leur foi et louent Dieu. Ils ne pouvaient pas s'appuyer sur les versets du Nouveau Testament, ils n'étaient pas encore écrits à l'époque. Mais inspirés par le Saint-Esprit, ils citent des versets, donc des psaumes 146 et du psaume 2. Et quand on lit le psaume 146, ce psaume nous montre que de Dieu seul vient la délivrance. Il s'intéresse aux hommes, notamment aux petits, aux faibles et aux méprisés. Il renverse la voie des méchants et c'est lui qui règne éternellement. Et c'est exactement la parole qu'il fallait à l'Église primitive. Eux qui étaient petits, faibles, méprisés. Et le psaume 2 nous dit que les nations, les rois, les princes de la terre, ne font aucun cas de la seigneurie de Jésus. Ils l'ignorent. Et ça aussi, c'est un verset qui correspondait à la situation vécue par l'Église. Donc nous remarquons que les disciples prient simplement la parole de Dieu. Ils citent la parole de Dieu, et je crois que c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Et Dieu aime entendre sa parole être confessée par ses enfants. C'est pour cela que je vous propose de faire, après ce message, quelques travaux pratiques. Dans ce sens. Évidemment, pour proclamer les promesses, les paroles de Dieu, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut ouvrir la Bible, la lire et même la relire. Parce que le Saint-Esprit ne peut nous rappeler que ce que nous avons déjà lu. Il ne peut pas nous rappeler quelque chose qu'on n'a jamais lu. Et nous voyons que par la confession de la parole de Dieu, les disciples se sont encouragés mutuellement. Cela leur permet de réaffirmer la souveraineté de Dieu. Le Seigneur devient le centre de leur intercession. Et le résultat ne se fait pas attendre. Quel est le résultat? Leur propre peur disparaît. Le meilleur moyen d'être débarrassé de ses peurs, de ses angoisses, de ses craintes, c'est de proclamer la parole de Dieu. Seigneur, je suis en train de vivre ceci ou cela, mais tu as dit dans ta parole, il est écrit.
C'est où ça?
Et il faut la citer alors, cette parole, il faut la proclamer. Et la Bible est le meilleur moyen, le meilleur livre de prière, le meilleur recueil. Encore ce matin, c'était pas un hasard, j'ai lu dans l'Ancien Testament ce passage où Dieu dit à Moïse, fais-toi deux trompettes en argent pour convoquer le peuple. Et quand vous partirez attaquer l'ennemi, vous sonnerez de ces trompettes avec éclat. Et je crois que nous devons faire cela. Sonner des trompettes, ça veut dire proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole. Et c'est un bon moyen de vaincre. Bon, il faut aussi que la vie corresponde à ce que qu'on proclame, c'est sûr. Il ne suffit pas de proclamer et de vivre complètement en dehors des voies de Dieu. Une troisième caractéristique de cette prière, on voit, c'est une prière audacieuse. Audacieuse. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, en la confirmant par des signes, des prodiges, des miracles. Pour le moment, il n'y a eu qu'un seul miracle, la guérison d'un paralytique, avec comme conséquence l'arrestation, l'emprisonnement des apôtres Pierre et Jean. Alors dans quel sens l'Église va-t-elle prier ? Elle ne demande pas l'élimination des ennemis, mais ose demander une foule de guérisons, de miracles, de prodiges. On pourrait dire qu'elle se jette droit dans la gueule du loup. Elle relève le défi. Alors, je ne sais pas si nous, Église du XXIe siècle, on aurait réagi comme cela. On aurait peut-être écrit un petit courrier aux autorités pour dire, bon, bah, c'était pas comme ça, qu'on fallait pas interpréter ça comme ça, de cette manière. Bon, les disciples relèvent le défi. Ils ne se précipitent pas vers la sortie. Ils ne quittent pas la ville, la région. On ne voit aucune pitié, pas de pitié de soi, de découragement, de sauf qui peut. Ils ne baissent pas les bras, mais ils demandent davantage. Et là, on remarque aussi, quand on lit le Nouveau Testament, le livre des Actes, que l'environnement n'a jamais été un obstacle, une entrave pour les premiers chrétiens. Jamais. Parfois, on entend dire, écoutez, oui, frère, vous comprenez, ici, le terrain est dur. Mais il est dur partout. Il a été dur toujours, de tout temps. L'environnement n'a jamais été un obstacle pour les chrétiens. Nous n'avons aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse. Et le premier disciple n'avait pas reçu la promesse qu'ils allaient être chouchoutés. Ils avaient réalisé que la vérité, c'est-à-dire Jésus, n'a pas besoin de défense, encore moins de défenseurs. La vérité a besoin de témoins. Et ils étaient prêts, les premiers disciples, à être ensemble, et chacun, en particulier, les témoins de Jésus. Alors, quand il nous arrive de parler à à des gens, ne défendons pas Jésus ou la doctrine, ou affirmons simplement les choses. Le Seigneur est assez grand pour se défendre. Alors la question que je me pose, c'est qu'à l'heure actuelle, où la vérité est considérée par la plupart de nos contemporains coupable de bien des maux, ben vous les chrétiens, vous êtes des empêcheurs de tourner en rond, ou autre chose encore. Ben c'est, à l'heure actuelle où se passent ces choses, est-ce que notre prière, la prière de l'Église, ne devrait-elle pas être plus audacieuse? Il y a un ancien, le père des missions modernes, c'était William Carey, c'est un missionnaire anglais qui vivait au 18e, 19e siècle, qui a exercé son ministère en Inde. Il avait comme devise « Attendez de grandes choses pour Dieu, tentez de grandes choses pour Dieu. » Il vivait avec ça. Et je crois que ça doit aussi être notre devise. Hein. Attendez de grandes choses pour Dieu. Il n'y a pas longtemps, notre pasteur Fabien avait parlé de Caleb dans le livre de Josué. Et Caleb, dans sa prière, alors qu'il avait déjà 85 ans, qu'est-ce qu'il y a 85 ans ici? Pas personne. Alors qu'il avait 85 ans, il réclama de Josué une montagne où vivaient des géants et où il y avait des villes grandes et fortifiées. Et il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Il demande ce que Dieu a dit. Alors, imitons-le. Finalement, c'est cela la prière. La prière, c'est demander ce que Dieu a dit. Mais il y a un risque. Il y a un risque. Être audacieux dans la prière peut signifier que nous devons être prêts aussi à être nous-mêmes les réponses à nos prières. Il y a un exemple dans le Nouveau Testament. Je crois que c'est la prière qui a été exaucée le plus vite dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous la connaissez?
Ah oui, le malfaiteur à la droite de Jésus. Ouais, il a été exaucé aussitôt quand il lui a demandé.
Oui.
Donc il y en a certainement d'autres alors.
Oui, oui.
Il lui a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, donc c'est du rapide. Hein.
Oui. Oui.
Il n'a pas eu besoin de faire d'œuvre, de quoi que ce soit.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais noté une autre, dans Matthieu 9, 37-38, où Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et là aussi, l'exaucement a été immédiat. Je crois que les disciples n'ont même pas eu le temps de prier. Au verset suivant, on lit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais, les esprits impurs, de guérir toute maladie. Priez donc le maître de la moisson, ah bon, bon, hop, nous envoie, allez-y. Ça risque aussi de nous arriver, ça. Parfois nous prions, ce n'est pas toujours à nous d'aller, mais parfois le Seigneur nous dit, bon, tu pries, alors, tu y vas. La quatrième caractéristique de la prière de l'Église, c'est une prière en faveur des responsables spirituels. Le facteur principal de la croissance de l'Église, c'est la prière. Qu'on le veuille ou non, on peut avoir toutes les meilleures méthodes, les États-Unis et tout ce qu'on veut. Ça ne marchera pas. C'est la prière. Et la prière doit s'élever en premier lieu en faveur de ceux qui exercent un ministère, un service particulier, que ce soit les anciens, le conseil, ceux qui prêchent, ceux qui font les chants, la musique, qui travaillent dans l'évangélisation, dans l'administration aussi, n'oublions pas, mais aussi à tous les membres. quand il est parlé dans ce verset de ce qu'on a lu, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Ce n'était pas seulement les apôtres qui étaient visés. Donne à tes serviteurs, c'est-à-dire c'était toute l'Église. Donne à nous tous qui sommes réunis. Donc Jésus ne pourra et ne voudra rien faire à travers ses serviteurs sans l'appui et la prière de toute l'Église. Nous sommes tous des responsables spirituels, chacun avec le don qu'il a reçu. Et les apôtres Pierre et Jean n'ont pas défilé triomphalement après leur libération, mais ils se sont tout de suite dirigés vers les leurs. Ils avaient besoin de leur soutien, de leur prière. Et c'était à leur chose, à leurs yeux, la chose la plus importante à faire. Clairement, c'est ça le mystère du corps de Christ. Les uns prient, les autres sont les témoins de Jésus en public, au dehors. Et les deux ministères agissent en étroite relation et collaboration et contribuent ainsi à l'expansion du royaume de Dieu. Et puis pour terminer, une cinquième caractéristique, c'est une prière agréé par le Saint-Esprit. Quand vous avez, premièrement, la prière de l'Église qui est faite d'un commun accord, quand, deuxièmement, elle reconnaît la souveraineté de Dieu, quand, troisièmement, elle est inspirée par le Saint-Esprit, quand, quatrièmement, elle s'appuie sur la parole de Dieu, quand, cinquièmement, elle est audacieuse, quand, sixièmement, elle s'élève en faveur des responsables spirituels, alors, que se passe-t-il? La réponse de Dieu ne se fait pas attendre. Il agit. Le lieu trembla. En réalité, je crois qu'il y a eu trois tremblements. Le lieu trembla. Le diable trembla. Et les conceptions des chrétiens furent ébranlées. Parce qu'on voit tout de suite après les versets, quand vous lisez, il y a un ordre nouveau qui apparaît. Les disciples, toute l'Église, tout le monde se met à partager ses biens. On reconnaît les besoins mutuels. Il y a l'amour fraternel qui grandit, le témoignage puissant et l'autorité des leaders spirituels aussi. Tout cela a été chamboulé. Et tout cela est arrivé suite à une prière de l'Église. Une réunion de prière qui se termine par un renouvellement dans le baptême du Saint-Esprit pour tous. C'est formidable, ça. Mais je crois qu'il faut bien méditer ce verset 31. La première partie a été accomplie par Dieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais la deuxième l'a été par les disciples. Ils annonçaient la parole avec assurance. Dieu n'a pas mis les anges à contribution. Et comme je l'ai dit, le plan de Dieu est varié. Je prie, d'autres agissent. Mais il arrive aussi, souvent, même, je prie et c'est à moi d'agir. Et si je ne fais rien, j'ai beau prier, il n'y a rien qui se fait. Alors en conclusion, après avoir vu tout cela, on peut quand même se poser la question, pourquoi Dieu incite-t-il son Église à prier? C'est quand même déconcertant, d'une certaine manière. C'est un mystère. Dieu est souverain, il a un pouvoir absolu, il fait ce qu'il veut. Pourquoi est-il dépendant de la prière, ou se rend-il dépendant de la prière de l'Église? Parfois, j'ai même trouvé une petite annonce de Dieu dans l'Ancien Testament, où il cherche désespérément quelqu'un. Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne devant moi à la brèche, afin que je ne détruise pas le pays. Mais je n'en trouve point. C'est comme une petite annonce que Dieu publie, cherche désespérément homme ou femme. Pourquoi Dieu est-il dépendant de la prière de l'Église? Pourquoi Jésus demande-t-il à ses disciples de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson? N'est-il pas le maître des ouvriers? Et la moisson ne lui appartient-elle pas? Réponse: Dieu désire un partenariat avec son Église, il ne veut rien faire sans elle. L'Église est la représentante de Dieu ici-bas, elle a reçu l'autorité pour accomplir sa volonté, ses décisions. Et la raison d'être de l'Église, c'est de rendre visible Jésus ici-bas. C'est comme s'il était encore parmi nous, exerçant son ministère terrestre. C'est cela la raison d'être de l'Église. Et c'est le rôle de l'Église de rendre visible Jésus, ni plus ni moins. Et c'est pas évident. La prière, ce n'est pas persuader Dieu de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. La prière réalise et exécute ce que Dieu a décidé. Elle impose à la terre la volonté divine. Alors maintenant, je propose qu'on passe aux travaux pratiques pendant quelques minutes encore. Mettons en pratique ce qui vient d'être dit. Vous avez peut-être des sujets de prière, des choses que vous tiennent à cœur particulièrement. Et je crois que c'est le moment de prendre la liberté de partager. Naturellement, quand c'est trop intime, non. Vous pouvez le garder pour vous. Hein. Non, mais si vous avez un fardeau ou quelque chose de réjouissant, qui fasse du bien à l'Église, je crois que nous devons apprendre à partager ces choses. C'est cela l'édification mutuelle. Et aussi, partager des fardeaux, des soucis. Et c'est le meilleur endroit de le faire, ici. Si on ne le fait pas ici, je ne vois pas où... Bon, le Seigneur comme beaucoup de choses, c'est sûr, mais je crois vivre l'Église, c'est ça, cela aussi. De partager librement ce qui nous tient à cœur. Et nous pouvons croire aussi à l'intervention divine. Alors, vous avez peut-être des sujets de prière personnels ou des sujets qui concernent l'Église. Par exemple, si on, j'avais dit, comme les premiers disciples avaient cité la parole de Dieu, et après, on peut en faire un sujet de prière. Ben, quand il est marqué, par exemple, pratiquer le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Ben, on peut dire, voilà, ça c'est marqué. Seigneur, donne-moi l'occasion de rencontrer les personnes à qui je peux faire du bien. Que ce soit mon frère, ma soeur, ici même, aujourd'hui, ou alors pendant la semaine, prendre mon téléphone, ou alors il est marqué aussi, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est une prière d'après la volonté de Dieu. Alors, demandons aussi, alors, Seigneur, tu as dit que tu veux que tous les hommes soient sauvés, alors je te demande de faire des rencontres, d'avoir des rendez-vous divins avec des personnes. Donc, voilà, et on peut prier de cette manière. En nous basant sur la parole de Dieu et demander dans ce sens-là que nous puissions avoir des paroles pour encourager quelqu'un, lui faire du bien, nous édifier. Le contraire d'édifier, c'est démolir, détruire. C'est plus vite fait, ça. Alors, si nous avons des sujets personnels, des sujets concernant la famille, nos enfants, là aussi, je peux vous donner quelque chose. Un verset, il est marqué dans, je pense, dans le livre de Malachie. Je ramènerai le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères vers leurs enfants. Je crois que nous sommes presque tous concernés ici. Nous avons des enfants ou des parents ou des gendres, des belles-filles, des cousins, des cousines, enfin bref, des membres de nos familles. Ben, il y a ce verset, je ramènerai le cœur de ces enfants vers les pères, les pères. Je crois que c'est Malachie, chapitre 4, à la fin. Et donc, prions dans ce sens. C'est la parole de Dieu. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer, marcher sur les eaux, ce matin, nous devons apprendre à partager cela, à nous édifier réciproquement, et à partager aussi les exaucements, nos craintes, nos doutes. C'est cela la famille de Dieu. Alors, je vous laisse simplement quelques minutes, même si c'est en silence, vous pouvez réfléchir, vous pouvez prier dans votre cœur. Et ceux qui veulent s'exprimer à votre voix, ce serait bien pour aussi encourager, nous encourager les uns les autres. C'est comme l'apôtre Paul qui voulait voir les Romains, il disait « Je désire vous encourager, je désire pouvoir pour vous communiquer quelques dons spirituels ou plutôt être encouragé au milieu de vous par la foi qui nous est commune. » Il ne s'est placé pas à des milliers de mètres au-dessus d'eux, non, il voulait être encouragé au milieu d'eux par les expériences des uns et des autres aussi. Je crois que nous devons arriver à vivre cela.